Vous allez entendre un cours de Monsieur Segresta, enseignant en lettres classiques et lettres modernes à l'Université de Paris 10.
Décrire les enfers, raconter une descente aux enfers, c'est tenter de trouver la quadrature du cercle. À plus forte raison en musique, comme le font ces premières mesures de la très belle Dante symphonie de Liszt, qui évoque l'inscription sinistre de la porte de l'enfer. En effet, une description ne parle à l'imagination du lecteur que s'il y reconnaît, plus ou moins, les lieux qu'il a lui-même parcourus. Comme un récit ne peut nous intéresser que s'il raconte une histoire vraisemblable ou à tout le moins imaginable pour nous-mêmes, dans laquelle nous pouvons nous projeter à notre tour. Alors comment faire pour décrire de façon communicable un espace symbolique comme l'enfer, un lieu qui n'est pas matériel, qu'on ne peut situer nulle part, un temps que ne peut mesurer aucune horloge? Comment raconter une expérience qui est pour le sens commun réservée aux morts et qui, de ce fait, n'est pas racontable et n'a jamais été racontée? Comme le rappelle Phèdre à propos de Thésée qu'on dit être descendu aux enfers avec Pirithoüs, « On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie et l'avare Achéron ne lâche point sa proie. » Pourtant, plusieurs poètes lyriques, plusieurs mystiques affirment avoir pu faire en esprit ce voyage sans retour. Ils nous affirment qu'ils sont à bon droit les messagers du royaume des morts parce qu'ils ont pu, eux, visiter l'au-delà. Ainsi Nerval à la fin d'Eldésite Shadow, et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Mais dans quel langage exprimer cette expérience au-delà des limites ? Comment le faire avec des mots qui font référence, eux, au monde familier, le nôtre, et à notre expérience de tous les jours? Il y a de quoi, même pour un poète de génie comme Dante, y perdre son latin, ou plutôt son toscan, comme il l'avoue au début du 32e chant de l'Enfer. « Non sans frayeur, je m'apprête à parler, car ce n'est pas affaire à prendre à la légère que de décrire le fond de l'univers entier, ni celle d'une langue qui dit « papa-maman ». Ce problème qui se pose à tout poète n'est peut-être pas absolument insoluble. L'imagination est pour tous les hommes une patrie commune, et chacun, dans certains lieux, dans certaines situations privilégiées, a pu ressentir cette proximité de l'au-delà, cette expérience des limites. Le poète n'est donc pour lui qu'un guide, quelqu'un qui a été plus loin, simplement parce qu'il a vu ou senti davantage. Comme l'affirme le voyant Rimbaud dans son bateau ivre, « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. » Ainsi peut-il, comme Virgile mettant sa main dans celle de Dante au chant 3 de l'Enfer, nous découvrir les choses secrètes. Comment se fait cet apocalypse, au sens étymologique du terme, qui signifie dévoilement, donc révélation ? Je voudrais vous proposer aujourd'hui quelques réponses au niveau de la conduite du récit et des figures de style. Je prendrai mes exemples dans trois célèbres descentes aux enfers poétiques sur lesquelles portera plus spécialement cette série de cours. Le livre 6 de l'Énéide de Virgile, l'Enfer de Dante et Aurélia de Nerval, qui constituent notre programme universitaire et se sont mutuellement influencés, mais aussi quelques autres. Après avoir dit quelques mots de l'insertion des enfers dans le monde réel, matériel, celui que nous connaissons, je verrai comment les poètes ont tenu à le rapprocher d'une autre par l'usage des métaphores qui nous permettent de l'imaginer à partir de ce que nous connaissons déjà. Mais ils ont un souci au moins égal d'éloigner ce monde d'une autre pour lui conserver son mystère. Et comme si la langue devait malgré tout échouer, ainsi que le précédente, les énigmes et les ellipses sont là pour nous faire sentir ce qui reste en dépit de tout l'indicible. Certains poètes ont tenu à éloigner l'enfer de notre monde terrestre. Certes, il s'y abouche quelque part, il le faut bien, pour qu'un être corporel puisse y avoir accès. Mais cette entrée des enfers est elle-même déjà une sorte d'au-delà. C'est ce que nous voyons dans l'Odyssée d'Homère au livre 11. Le pays des Cimmériens, où la magicienne Circé envoie Ulysse consulter les morts, est une île improbable, à la fois infiniment éloignée, puisqu'elle se trouve aux limites du cours profond de l'océan, cet infranchissable Atlantique jusqu'à Christophe Colomb, mais aussi extrêmement proche, puisqu'Ulysse l'atteint sans effort, en se laissant conduire par le vent, et très vite, puisqu'il y parvient le soir même. Enfin, ce peuple et cette ville sont déjà comme le monde des morts, puisque sur eux, jamais le soleil éclatant ne fait descendre ses rayons. Même chose dans le poème de Dante. On ne peut situer en aucun point du globe cette forêt obscure du deuxième vers, dont Dante lui-même avoue « Je suis incapable de redire comment j'y entrai ». À plus forte raison, dans Aurélia de Nerval, où les trois grandes descentes aux enfers, première partie, chapitres 4 et 5, chapitre 6 et chapitres 9 et 10, sont accomplies en rêve. Le monde des esprits s'ouvre pour nous, mais on ne sait comment se franchissent les portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Dans le texte, comme dans l'expérience du rêveur, nous sommes brusquement, et parfois sans même nous en rendre compte, transportés dans le monde onirique. Un soir, je crus avec certitude être transporté sur les bords du Rhin, ainsi commence ce chapitre 4. Et cette brusquerie de l'entrée dans l'au-delà du rêve est telle que le lecteur en arrive à ne plus bien dissocier parfois ce qui est rêve et ce qui est récit du vécu. Mais il est tout aussi intéressant de rapprocher au maximum ce monde infernal du nôtre. Il peut ainsi gagner en crédibilité, donc en force de persuasion, en présence pour notre imagination, ce qu'il perdra forcément en mystère. C'est le pari que tente Virgile, qui s'écarte ici radicalement du modèle homérique. Ces enfers, aînés les trouvent au rivage euboïque de Cume. Il n'a pour les atteindre qu'à contourner la péninsule italique, et, naturellement pour Virgile et ses lecteurs, Cume, le lac Averne, si proche de la grande station balnéaire de Baille, le Biarritz des Romains, c'est un lieu familier. Familier mais impressionnant, il l'est encore, avec ce lagon volcanique aux eaux sombres encore assombries par le reflet de l'épaisse forêt qui couvre ses bords, avec aussi ces vapeurs de soufre capables de tuer les oiseaux imprudents qui voudraient le survoler. Plus qu'un lieu pittoresque, un lieu maudit, terrible par son aspect, terrible aussi par les traditions légendaires qui s'y attachaient. La précision avec laquelle Virgile le décrit, une précision qu'on pourrait même trouver maniaque lorsqu'elle détaille les battants de porte en bronze du temple de la Sibylle, œuvre mythique de Dédale, cette minutie de la description est un facteur de vraisemblance. Le lieu existe et même si nous ne l'avons pas vu, nous nous y voyons en lisant Virgile. Or, cette description paraît se continuer tout naturellement à l'intérieur de la terre, c'est-à-dire aux enfers. On y voit se prolonger les gorges noirâtres des bords du lac. On y trouve ensuite un vaste vestibule, comme celui du temple de la Sibylle, au milieu duquel un ormeau épais abrite non plus des oiseaux réels, mais les mille fantômes monstrueux qui viennent peupler nos cauchemars. Plus loin, le vaste abîme de boue qui bouillonne, l'Achéron, semble continuer sous terre les eaux sombres et boueuses du lac Fusaro, proche de l'Averne, et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment rupture. On passe insensiblement et comme naturellement d'un monde à l'autre. Ce sera la démarche au XIXe siècle de la littérature fantastique, ce glissement imperceptible du plus banal dans le plus insolite, le plus effrayant. Et ce sera celle aussi du roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, qui est bien lui aussi une descente aux enfers, mais elle a lieu de façon uniquement symbolique et allusive. Au plan de la description, Lowry se borne à décrire le plateau et la barranca de Cuernavaca et les volcans jumeaux du Popocatépetl et de l'Iztaccíhuatl, comme si Virgile avait laissé Énée au bord du lac Averne. Chez Lauri, la descente se fait à l'intérieur de soi-même. Cette double possibilité d'accéder aux enfers et par conséquent d'insérer dans un récit moins invraisemblable l'expérience la plus inouïe qu'un homme puisse espérer faire, l'éloignement maximum ou le rapprochement maximum, nous allons la retrouver, mais généralement conjuguée, dans une sorte de tension dialectique tout au long du parcours, à travers la façon dont les lieux et les impressions qu'ils font sont décrits. Ce qui permet aux poètes de les rapprocher de nous, au moins suffisamment pour qu'ils puissent parler à notre imagination, ce sont les métaphores, le recours à des images analogiques qui, elles, sont empruntées à notre monde et à notre expérience, mais qui peuvent tout de même constituer des à peu près acceptables. Quelques exemples. Énée, cheminant dans les ténèbres souterraines, sur les pas de la Sibylle, c'est « comme le chemin qu'on fait dans les bois par une lune incertaine avec une lumière avare ». Les morts innombrables guettent la barque de Caron comme les oiseaux migrateurs rassemblés à l'approche de l'hiver. Le Tartare est décrit comme une ville fortifiée avec un triple rempart et une porte énorme aux colonnes d'acier massif et surplombée par une tour de fer illuminée de flammes, strié de bruits de fouet et de chaînes. Au contraire, les Champs-Élysées ressemblent à un riant jardin avec d'agréables pelouses et des bois fortunés. Et Anchise, du haut d'un promontoire, montre à Énée ses descendants comme Auguste pouvait regarder le défilé de ses légions. Ces descriptions, souvent imitées, se retrouveront chez Dante avec le noble château des Limbes au champ 4, enfermant un pré à la fraîche verdure, puis avec les terribles remparts de la cité de Dithée, au champ 8, où il évoque même des mosquées vermeilles comme si elles sortaient du feu. C'est en effet l'extraordinaire réussite de Dante. Son propos est encore plus abstrait, sans doute, que celui de Virgile. Quoi de plus austèrement doctrinal, de plus formel, de moins poétique que l'éthique d'Aristote et la somme théologique de Thomas d'Aquin? Et pourtant, aucune œuvre, peut-être, n'a poussé plus loin, paradoxalement, le réalisme des descriptions, au point de fasciner et de provoquer par émulation de nombreux peintres, graveurs et sculpteurs, de Botticelli à Rodin, en passant par William Blake, Delacroix, Gustave Doré. Le pari, audacieux mais généralement réussi de Dante, c'est d'emprunter ces métaphores non pas à des lieux vagues, typiques mais vagues, la forêt, le ravin, le marécage ou la pelouse fleurie comme Virgile, mais à des lieux précis, identifiés, souvent connus de ses lecteurs, ou encore à toutes sortes d'humbles réalités de la vie de tous les jours. D'où cette familiarité hallucinante que prend chez lui l'imagination de l'inouï. Je ne donnerai que quelques exemples, choisis dans plusieurs dizaines. Pour nous faire imaginer le cercle des hérétiques, enfermés dans d'innombrables tombes où des flammes s'attachent à leurs os, il nous fait partir du cimetière des Aliscans à Arles et de la nécropole antique de Pula, actuellement en Yougoslavie, mais alors vénitienne. Chant 9, vers 112-120. Au début du chant 12, le bord abrupt du septième cercle nous est dépeint par l'analogie d'un éboulement qui barre le cours de l'Adige au-dessous de 30 et que les voyageurs doivent escalader pour continuer leur route. Au début du chant 15, ce sont les digues élevées par les Flamands et les Padouans qui nous permettront d'imaginer les margelles, margini, qui compartimentent les 10 bolges ou fosses du 8e cercle. Au chant 16, nous trouverons une longue description des célèbres cascades de Forlì, à une centaine de kilomètres de Florence, et au chant 19, la paroi criblée de trous où les simoniaques sont fichés la tête en bas, introduit une description des fonts baptismaux de San Giovanni à Florence même, et qui plus est, le récit d'un exploit de Dante lui-même, qui y a sauvé un enfant de la noyade. Plus nombreuses encore sont les images pittoresques et familières. Le calfatage des bateaux à Venise, au chant 21, longuement décrit pour évoquer la poix bouillante où sont plongés les trafiquants. Les cabrioles des dauphins autour des navires, pour peindre ces mêmes damnés, montrant le dos le temps d'un éclair. Les grenouilles émergeant un instant d'une mare et les cigognes qui claquent du bec pour nous montrer les traîtres pris dans la glace jusqu'à hauteur du sexe. Même Dithée Satan, qu'on eût pu croire absolument indescriptible, apparaît d'abord presque familièrement comme un moulin que le vent fait tourner. 34 vers 6. Mais ce sont ses ailes qui brassent le vent, un ouragan si violent que Dante doit s'abriter derrière Virgile pour pouvoir avancer. À ce pari, Dante en ajoute un autre, au moins aussi risqué, celui de l'humour et même du franc-comique. En cela, il se montre fidèle à l'esprit médiéval, des églises romanes pleines de sculptures grotesques, jusqu'aux fantaisies, parfois plus truculentes que terribles, de peintres comme Jérôme Bosch au XVe et Bruegel au XVIe. Parmi de nombreux exemples, je rappellerai les sodomites du champ 15, qui clignaient des yeux vers nous, comme le vieux tailleur au chat de son aiguille, ou le faux monnayeur frappé d'hydropisie et qui a pris la forme d'un luth, comme s'il était coupé à l'aine, là où le corps devient fourchu, chant 30 vers 49-51. Ou évidemment le vers qui clôt le 21e chant, quand Aliquino met en branle sa cohorte de démons, et lui, il avait fait de son cul une trompette. Cette grossièreté inattendue en un tel contexte sera développée avec un faux sérieux par les premiers vers du chant 22, où Dante rappelle les assauts et cavalcades de la bataille de Campaldino, auxquels il avait lui-même pris part, pour conclure « Mais jamais je n'ai vu marcher cavalier ni piéton au son d'un si étrange clairon » vers 10 et 11. Nerval ne se permet pas de tels écarts, le classicisme est passé par là. Mais lui aussi a recours à des métaphores analogiques. Ainsi, les courants de métal fondu dont les teintes indiquaient les différences chimiques par lesquelles s'effectue la descente aux enfers sillonnaient le sein de la terre comme les vaisseaux et les veines, avec leurs couleurs rouge et bleue, qui serpentent parmi les lobes du cerveau. Mais ceux qu'il nous décrit sont, eux, composés d'âmes vivantes, qui pourtant se présentent à l'état moléculaire, comme le sang vu au microscope. Plus abstraitement, deux pages plus loin, il voit une chaîne non interrompue d'hommes et de femmes, de tous les peuples et de tous les temps, grâce à un phénomène d'espace analogue à celui du temps qui concentre un siècle d'action dans une minute de rêve. Avec cette image et déjà quelques autres, nous avons un exemple d'hyperbole, c'est-à-dire d'exagération par rapport à la réalité, à l'expérience commune. Cette figure de style, bien que relevant toujours de l'analogie, tend déjà à éloigner les images infernales de celles de notre monde. Ainsi, Cerbère est bien un chien de garde, mais à trois têtes chez Virgile et Dante. Et le Tartare est encore mieux gardé par une hydre à 50 gueules. Ce même Tartare s'ouvre deux fois plus profond sous l'empire des ombres que la hauteur que l'œil voit à l'Olympe éthérée, cette montagne de Grèce qui semblait si haute qu'on y situait la demeure des dieux. On retrouvera des expressions hyperboliques du même genre chez Dante. Les quatre titans qui constituent par leur corps le puits des géants sont plus hauts que les hautes tours de Monteriggioni, vers 41. Le corps de Nemrod, l'un d'entre eux, eut couvert même le tonnerre, vers 13, et Dité, au dernier chant, va être mesuré par une véritable opération hyperbolique. Ma taille, dit Dante, est plus proche de celle d'un géant que les géants ne le sont de celle de ses bras. Quand Hugo voudra décrire, dans le prologue de la fin de Satan, la chute colossale de Lucifer hors de la terre et hors de toute échelle terrestre, il va multiplier plutôt les mesures du temps. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il va ensuite entasser les milliers d'années sur les milliers d'années, jusqu'au moment où la nuit totale sera faite, comme Dieu, lui, avait créé la lumière, où toutes les formes du mal auront été créées par les invectives de Satan, comme Dieu avait créé par sa parole toutes les choses bonnes, jusqu'à ce que Satan ait trouvé sa place, tout au fond de l'espace, mais en même temps, comme chez Dante, au centre de la terre, où il devient, cette fois je cite un vers de ce que dit la bouche d'ombre, cet affreux soleil noir d'où rayonne la nuit. Soleil noir, cette figure de style, qui consiste à accoler deux termes apparemment antithétiques, s'appelle un oxymore, ce qui signifie en grec « absurdité ». Mais il est des absurdités hautement significatives, comme on dit proverbialement que le silence est éloquent, oxymore banal. L'oxymore, ou plus largement l'image paradoxale, parce que composée de termes généralement perçus comme incompatibles, est en effet le procédé qui permet le mieux d'éloigner l'au-delà des normes de notre monde, de notre expérience commune. Et d'abord, puisque nous parlions d'obscure clarté, comme celle qui tombe des étoiles dans le récit du Cid, ces enfers souterrains y sont plongés dans les ténèbres. Et pourtant, on y voit, bien assez clair pour en découvrir toutes les figures étranges. Mieux même, les Champs-Élysées virgiliens ont leur soleil et leur constellation et sont revêtus d'une lumière pourpre. Ils n'en sont pas moins sous la terre, puisque leur fleuve, l'Éridan, en sort pour monter à la surface de la terre. même prodige chez Nerval, la populeuse cité où travaillent les forgerons du feu central est éclairée d'un jour sans soleil, première partie chapitre 4. Et quand il s'y retrouve au chapitre 10, il note, à peine surpris, que les roseaux semblaient desséchés par les feux du soleil, mais je n'ai pas vu de soleil plus que les autres fois. Ce ne sont pas les seuls oxymores de nos textes, loin de là. Le phlégéton du Tartare dans Virgile enveloppe les remparts de ses flammes torrentielles, image qui unit les deux éléments antagonistes par excellence, l'eau et le feu. Énée et Anchise, aux Champs-Élysées, se promènent sur de larges plaines nébuleuses. Cette fois, c'est l'élément terre, les plaines, qui se confond avec l'air, les nuages. Chez Nerval, maintenant, après cette traversée de la croûte terrestre, on découvre un horizon nouveau, où se traçaient des îles entourées de flots lumineux. Sommes-nous au centre de la Terre, ou en pleine mer, ou encore en plein ciel? Tout cela à la fois, sans doute, et rien de tout cela, puisque nous sommes dans un espace onirique et de plus symbolique, hors de l'espace et du temps, et qui ne peut donc être cerné que très imparfaitement par les catégories de notre entendement habituel, pour reprendre les termes de Kant. Cette fois encore, Dante nous fournirait de nombreux exemples. Ainsi, ces vers 28 à 30 du chant 5. « Je vins en un lieu où la lumière se tait », audacieux exemple de synesthésie, mêlant le sens de la vue et celui de l'ouïe, est tout de suite contredit, puisque ce lieu de silence est aussi mugissant comme mer en tempête quand elle est battue par les vents contraires. En trois vers se mêlent les quatre éléments, feu avec lumière, eau avec mer en tempête, air avec les vents et bien entendu terre puisque nous y sommes descendus. Et tout cela dans un tumulte au silence pareil, pour citer cette fois le célèbre oxymore du cimetière marin de Paul Valéry. Au chant 14, qui décrit le désert aride et brûlé des violents contre Dieu ou blasphémateurs, paradoxalement il pleut et même il neige, mais c'est une neige de feu. Sur tout le sable, en une chute lente, pleuvait de grands flocons de feu, comme neige sur l'Alpe un jour sans vent. Autre exemple saisissant, la forêt des suicidés au chant 13. Feuilles non pas vertes, mais de couleur sombre. Branches non pas droites, mais nouées et tordues. Non pas avec des fruits, mais des épines empoisonnées. Et ensuite, ces arbres ne portent pas des nids d'oiseaux, mais les harpies horribles, ils participent à la fois du règne végétal et du règne humain. Déchiquetés qu'ils sont par les harpies, ainsi, du bois brisé sortait tout à la fois des maux et du sang, vers 43 et 44. Ce dernier exemple d'oxymore trahit la grande ambiguïté de la croyance primitive en la survie. Les morts en enfer sont à la fois corporels, avec exactement l'aspect qu'ils revêtaient durant leur vie, et immatériels, puisqu'aussi bien ce ne sont que des âmes, la fumée qui s'échappe du bûcher d'incinération, tandis que le corps est réduit à des cendres informes. Ulysse ou Énée reconnaissent immédiatement leurs parents ou leurs anciens compagnons. Déiphobe, trahi par son épouse Hélène et tombé sous les coups des Grecs, a le visage cruellement déchiré, les oreilles arrachées, les tempes défoncées, le nez mutilé par une hideuse blessure. Mais ni Ulysse ne peut embrasser sa mère Anticlée, ni Énée son père Anchise. Trois fois je m'élançais, mon cœur me pressait de l'étreindre, trois fois hors de mes bras, pareil à une ombre ou un songe, elle s'enfuit. Vers que Virgile a décalqué dans le chant 6 de son Énéide. Mais chez Dante aussi, qui disposait pourtant d'une théologie plus affinée, les morts sont à la fois corporels et, comme tels, astreints à de terribles souffrances physiques, et immatériels, renaissant d'ailleurs toujours de leur supplice sans fin, comme le foie de Tityos qui, chez Virgile, repousse au fur et à mesure qu'un vautour le lui dévore. Il faut croire que cette ambiguïté est tenace. Claudel, grand admirateur de Dante, lui reprochera cependant ses imaginations naïves et puériles. Pourtant, dans sa propre descente aux enfers, à l'acte 2 de ce curieux et superbe drame chinois écrit en 1896 à Fuzhou, le repos du septième jour, lui-même n'échappait pas à ses contradictions. Certes, chez lui, le feu pénal, comme le démon l'explique à l'empereur de Chine, est bien du feu sans feu et sans fumée, un feu spirituel qui est le remords dévorant du mal, l'impossibilité de répondre désormais à l'ardente sollicitude de l'amour de Dieu. Il n'empêche que les expressions de torture physique abondent dans la description que fait le démon des trois enceintes de la damnation correspondant aux trois degrés du péché, qui est pourtant, selon Claudel, péché de l'esprit. L'empereur s'en étonne d'ailleurs. Sans corps, comment l'homme peut-il souffrir corporellement? La réponse du démon, la peine lui est un vêtement, paraît quelque peu énigmatique et ne résout pas la contradiction. Il est vrai que l'ambiguïté se trouvait déjà chez Thomas d'Aquin. L'union étroite du corps et de l'âme lui impose de penser que les morts souffriront une punition non seulement morale mais corporelle, mais il ne parvient pas à expliquer le comment. L'esprit essentiellement imaginatif des poètes ne saurait être ici plus logique et rationnellement cohérent que celui du philosophe dont ils adoptent tous les deux la doctrine. En dépit de toutes ces ressources du langage, il subsiste un reste d'obscurité, un noyau d'inexplicable. En poésie, ce n'est pas une faiblesse, un aveu d'impuissance, mais bien plutôt la preuve d'une expérience mystique authentique. Trop d'explications, trop de clarté paraîtraient suspects. Ainsi, devant la description de certains prodiges, comme les métamorphoses d'hommes en serpents et réciproquement dans la fosse des voleurs au chant 25, Dante quête notre indulgence. Que l'inouï soit mon excuse si ma langue s'empêtre. De même chez Nerval, comment expliquer clairement au lecteur le prodige de ces trois femmes au chapitre 6 de la première partie, dont chacune a les traits de plusieurs et qui pourtant sont une seule femme, puisqu'entre elles s'établit une continuelle circulation des ressemblances, les contours de leurs figures variés comme la flamme d'une lampe et à tout moment quelque chose de l'une passé dans l'autre. À côté de cette difficulté à raconter les prodiges, nous trouverons dans nos textes des passages résolument énigmatiques, comme le sont, selon Nerval, les sonnets des chimères, qui perdraient de leur charme à être expliqués si la chose était possible, charme au sens classique d'effet magique. Ainsi, les allégories du vieillard de Crète au chant 14 ou de Dité avec sa triple tête et les trois vents qu'il souffle au dernier chant. Ou cette énigme célèbre dont on a beaucoup discuté, le dernier vers du récit du Golin, chant 33, vers 75, et puis ce que la douleur ne put, la faim le put. Quel verbe faut-il sous-entendre ? Mourir ou dévorer de la chair humaine, comme l'a pensé la tradition ? Le texte d'Aurélia aussi multiplie les énigmes. Ainsi, la réponse de l'oncle guide infernal dans 1-4, « Nous sommes sept, le nombre typique de chaque famille, et par extension 7 fois 7 et davantage. » La note renvoyant aux glosses de la Kabbale sur la famille de Noé ajoute à notre perplexité plus qu'elle ne nous éclaire. Et plus loin, il y aura toutes les terribles questions sans réponse que pose la rencontre du double. Était-ce le double des légendes, c'est-à-dire le diable ou le messager de la mort, ou ce frère mystique que les orientaux appellent Ferouir ? Suis-je le bon ? Suis-je le mauvais ? En tout cas, l'autre m'est hostile, chapitre 9. Le vers final du récit du Golin ouvre sur une dernière figure de style qui sert à indiquer, mais non plus à exprimer, ce qui est inexprimable. Il s'agit de l'ellipse. En taisant le verbe qui désigne l'acte évoqué par Ugolin, Dante traduit une sorte de blocage devant ce qui est l'horreur absolue, ce qu'il est peut-être interdit de nommer. Il nous le donne à lire indirectement à travers le songe prémonitoire du Golin, lui-même allusif, où il voit un loup et des louveteaux poursuivis par une chasse, le père et ses enfants paraissaient épuisés et il me semblait voir des crocs aigus leur déchirer les flancs. Mais aussi son châtiment, correspondant à son crime et assurant en même temps la vengeance à laquelle il a droit, il reprit le malheureux crâne de l'évêque Ruggero, avec ses dents qui mordirent l'os comme celles d'un chien. Nerval non plus ne parvient pas à dire et sans doute à voir quelle est l'arme mystérieuse et certainement chargée de symbolisme avec laquelle son double le menace. Il ne peut pas non plus reconnaître ou ne veut pas reconnaître cette femme abandonnée par les Elohim au milieu du déluge qui crie les cheveux épars, se débattant contre la mort. Cri de femme agonisante qui le réveillera de nouveau à la fin du chapitre 10 et qui est tout à la fois celui de sa mère, celui d'Aurélia, celui de la Vierge, celui de la nature divinisée, l'expression d'une angoisse et d'un désespoir si aigu que la langue se refuse à le dire.